RMC Intégral Tour, Christophe Cessieux.
Bonsoir à tous en direct de l'Alpe d'Huez ce soir au terme de la 20e étape de ce Tour de France qui nous aura livré une véritable bataille et de grands sourires à l'arrivée avec évidemment la victoire de Thibaut Pinot qui après un Tour de France plutôt décevant pour lui, lui qui était passé à côté à plusieurs reprises, a enfin pris sa revanche et quelle revanche puisqu'il s'impose ici au terme de cette étape la plus belle, la plus prestigieuse étape du Tour de France. On va évidemment revenir dans quelques instants sur le succès de Thibaut Pinot, on va aussi s'intéresser à la victoire de Chris Froome qui a tremblé aujourd'hui mais qui garde son maillot jaune et qui arrivera demain sur les Champs-Élysées avec ce maillot jaune. Deuxième victoire dans le Tour de France. Ils seront avec moi dans quelques instants, Luc Leblanc, Thierry Bourguignon et Cyril Guimard. Mais avant tout cela, on va se remettre en mémoire tous les résultats du jour. C'est la deuxième édition de RMC Sport avec Guillaume Lagnel. Bonsoir Guillaume.
Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. L'actualité football marquée par le tirage au sort des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2018. Mohamed Bouafsi est à mes côtés. Salut Mohamed. Et on connaît depuis quelques minutes le groupe dans lequel évoluera la France. Ce ne sera pas simple pour les Bleus.
Un groupe difficile pour la France puisque les Bleus de Didier Deschamps affronteront en phase des qualifications de la Coupe du Monde 2018 qui aura lieu en Russie, les Pays-Bas, la Suède, la Bulgarie, le Bélarus et le Luxembourg. Un groupe délicat pour les joueurs de Didier Deschamps. Une poule qui rappelle le raté, le traumatisme des qualifications de la Coupe du Monde 1994. Cette année-là, les Bleus étaient dans le même groupe que la Suède et la Bulgarie.
Merci Mohamed et on rappelle que les premiers de chacun des 9 groupes seront directement qualifiés pour cette Coupe du Monde 2018 qui se disputera en Russie. Le football sur le terrain en amical, sachez que le Celtic Glasgow a battu cet après-midi Rennes 2-0 et puis en ce moment Arsenal écrase à l'Emirates Stadium Lyon 6-0. Nous sommes à quelques minutes de la fin du match. Sachez également que Clément Grenier est sorti sur blessure ce soir à minuit heure française. Le Paris Saint-Germain affronte Chelsea. Le Tour de France, c'est la victoire pleine de panache. Vous l'avez vécu cet après-midi sur RMC de Thibaut Pinot sur la 20e étape à l'Alpe d'Huez. Le Français s'impose en solitaire avec 10 secondes d'avance sur Nairo Quintana. L'ancien vainqueur de l'Alpe d'Huez, Christophe Riblon, y va de son petit hommage.
Un petit mot de sympathie pour Thibaut Pinot. Il le mérite et il me succède. Ouais, et il succède aussi à Pierre Roland. Je me souviens qu'après mon étape, on avait dit l'Alpe est française et reste française. Bah, elle est encore française et ça, c'est vraiment cool. C'est une bonne chose. C'est un mythe, c'est une légende et on a encore un Français qui est vainqueur là-haut. Ça, c'est, enfin, moi, ça me plaît.
Christophe Riblon au micro de Pierre Ikten a noté la magnifique étape de Quintana qui a repris 1 minute et 26 secondes sur Froome. Le Britannique devrait malgré tout remporter demain sur les Champs-Élysées son deuxième Tour de France. Mauvaise journée en revanche pour Romain Bardet. Le Français termine 18e de l'étape et perd son maillot à poids désormais sur les épaules de Chris Froome. Demain 21e et dernière étape avec l'arrivée sur les Champs-Élysées. En Formule 1, le refrain est bien connu. Lewis Hamilton partira en pole position demain sur le Grand Prix de Hongrie. Le champion du monde en titre a devancé son coéquipier Nico Rosberg et Sébastien Vettel. Romain Grosjean partira lui en 10e position. Renaud Lavillenie en confiance avant les mondiaux d'athlétisme. À Londres, le perchiste français a remporté le concours du saut à la perche avec un saut à 6m03. Il s'agissait de la dernière sortie du français avant les championnats du monde. Et puis en tennis, Benoît Paire est en finale à Bastadt. Le français vient de s'imposer face à Pablo Cuevas en 2-7, 6-4, 6-3. Il jouera demain sa troisième finale en simple face à Tommy Robredo, déjà vainqueur à 2 reprises du tournoi. On rappelle que Paire n'a jamais gagné le moindre tournoi dans sa carrière. Et puis ça vient de terminer à Londres dans le match amical entre Lyon et Arsenal. Victoire donc des hommes d'Arsène Wenger. 6-0. Il est 19h10 sur RMC. Christophe, je te repasse la main pour la suite de l'intégral Tour de France.
Exactement. Merci Guillaume. La suite de l'intégral Tour de France. Donc nous sommes en direct de l'Alpe d'Huez. Ce soir avec la banane. Faut bien le dire. On a la banane. On a le sourire parce qu'on s'est régalé cet après-midi. On s'est pas toujours régalé durant ce Tour de France, même si il a quand même été d'un fort beau tonneau, dirons-nous. Mais aujourd'hui, c'était quand même l'apothéose, le bouquet final avec cette arrivée à l'Alpe d'Huez, la montagne des Hollandais qui a de plus en plus tendance à se transformer en montagne des Français. Puisque rappelez-vous, il y a 4 ans, c'est Pierre Roland qui s'était imposé ici. Il y a 2 ans, Christophe Riblon avait pris la relève et désormais, eh bien, Thibaut Pinot sera aussi l'un des maîtres de l'Alpe d'Huez puisqu'il s'est imposé cet après-midi au terme d'une très belle échappée. Thibaut Pinot qui franchit la ligne avec 18 petites secondes seulement d'avance sur Nairo Quintana qui n'a pas réussi à reprendre le français. Le troisième de l'étape, c'est Ryder Hegdal, le Canadien arrive avec 41 secondes. Valverde, quatrième à 1:38. Cinquième, Christopher Froome, lui aussi à 1:38. 48, Pierre Roland est 6e à 1,41 et la suite bien un petit peu plus loin pour les autres. Messieurs, bonsoir déjà, monsieur Guimard, bonsoir.
Bonsoir, et je vous ferai remarquer que pour le dernier jour, mon micro est ouvert.
Incroyable, on va y arriver, mais l'année prochaine tu auras encore oublié comment ça marche.
Ah bon, parce que vous m'invitez déjà pour l'année prochaine.
Ah oui, tu as fait un bon tour, donc on peut te reprendre. Luc Leblanc.
M'inviter, j'aime bien. Vous m'invitez déjà l'année prochaine?
Bah oui, on lui donne pas des sous, contrairement à Luc. Là, on est obligé de casser la tirelire, quand même, pour payer le salaire de ministre de Luc Leblanc. Comment ça va, monsieur?
Bien sûr, bonsoir, ça va.
Et puis le régional ou presse de l'étape, enfin, il est pas avec nous, c'est Thierry Bourguignon. On est sur ses terres, mais il est pas avec nous. Ça va, Thierry?
Eh oui, bonsoir, messieurs. Et oui, je suis pas à côté de vous pour avoir, ouais. Mais j'ai apprécié la victoire par médias interposés. Et franchement, c'était vraiment grandiose, grandiose.
Et ouais, grandiose étape, grandiose ascension de l'Alpe d'Huez, une étape qui avait commencé, le chantier qui avait commencé dès la Croix de Fer, Cyril. On a senti ce matin que, enfin, à la mi-journée, puisque c'était une étape très courte, hein, 110 km, on a senti qu'il allait se passer des choses aujourd'hui, et on s'est pas trompé sur ce coup-là. Premier pétard qui explosait, et tu le disais, c'était pas des pétards mouillés dans le col de la Croix de Fer, et ensuite ça n'a été que crescendo, ça n'est monté que crescendo.
Oui, effectivement, mais les étapes courtes sont souvent très animées. D'abord parce qu'il n'y a pas la distance et que les coureurs se livrent un peu plus. Et c'est vrai que dans la montée de la Croix de Fer, le rythme était déjà très élevé au pied, puisque Romain Bardet et son équipe ont peut-être fait une petite erreur au départ de laisser des échappés prendre plus de 7 minutes. Et donc ils ont monté le rythme dès le pied de la Croix de Fer, ce qui a eu pour effet, bien sûr, d'étirer le peloton, mais peut-être aussi d'exciter pour le plus grand bien d'ailleurs, d'exciter les coureurs de l'équipe Movistar qui se sont dit ça monte vite, c'est très bien, ça fatigue tout le monde, et pourquoi pas les équipiers de Christopher Froome. Et là on a vu les premières banderilles lancées, Valverde et puis après Contador, et puis Valverde et Contador, et derrière il n'est plus resté que Nibali et Christopher Froome. Vraiment une bagarre absolument extraordinaire sur cette montée. Ils se sont regroupés pratiquement dès le sommet, puisque Froome était déjà en difficulté, était un petit peu en retrait et qu'il a fait juste l'effort nécessaire pour revenir. Alors est-ce qu'il était bien ou pas bien qu'il a fait juste cet effort-là sans que ça lui coûte, ou peut-être que ça lui a coûté. Toujours est-il qu'au sommet, les quatre se sont regroupés, et dans la descente, tout est revenu, parce que quand les quatre favoris sont ensemble, qui va rouler dans cette descente? Et la course a pris un nouveau visage à partir de ce moment-là.
Voilà, un nouveau visage avec l'attaque de Geniez, Thibaut Pinot bien à l'abri dans une échappée, il n'a pas pris de relais. Et puis lorsqu'il a vu que son coéquipier commençait à être dans le dur, eh bien il a attaqué avec le Canadien Hegdal, et il a réussi à tenir. Et ça, c'est le plus important, réussir à tenir avec si peu d'avance et dans la roue derrière la grande bagarre pour le classement général. C'est pas donné à tout le monde, ça, hein, Thierry.
Là, franchement, j'avais peur pour Pinot sur la fin, puisque on a vu vraiment Quintana se lancer dans le boulot, comme on dit, et de belle façon. Il y a un moment, il a plafonné au-dessus du à la traversée du village Huez, et à partir de là, il avait du mal à revenir gentiment sur Pinot. Pinot s'est éclaté complètement pour garder un minimum d'avance dans les deux derniers kilomètres, et il a fini. Avec la joie qu'on pense, parce que franchement c'était énorme, c'est énorme. Gagner à l'Alpe d'Huez, gagner une étape déjà du Tour, gagner à l'Alpe d'Huez, c'est énorme, et avec la chasse des grands derrière, c'est ça.
Ouais. Quand on est coureur cycliste, messieurs, l'Alpe d'Huez, quand on est grimpeur qui plus est, l'Alpe d'Huez, c'est vraiment le nirvana, le nec plus ultra, le sommet Graal. D'une carrière, le Graal, je sais pas, la Coupe du Monde de foot pour un cycliste, enfin je sais pas. Comment, Lucho, t'as jamais gagné là, t'en as gagné d'autres magnifiques, mais on va essayer
du camion.
Non, il est là, mais son micro n'est pas ouvert, et ça dépend de... Non, alors on va essayer de lui trouver un autre micro. Thierry, vas-y, réponds à cette question.
Eh ben oui, moi étant régional, je peux te dire que l'Alpe d'Huez, j'aurais aimé la mettre au fond et puis sur mon palmarès. Malheureusement, première année pro, je me suis fait avoir à 10 km de l'arrivée. J'ai vu revenir le train d'Ine Duren sur moi, et puis la dernière année pro. Ben, avec Stéphane Delot, on s'est fait avoir à 3 et 4 km de l'arrivée.
Le souvenir que j'ai, moi, c'est en 1991, c'est l'Alpe d'Huez où je chute à 3 km de l'arrivée. J'étais avec Bougnot et Indurain, on était échappés tous les trois. Et puis un spectateur s'est approché un petit peu trop près de moi avec son caméscope à l'époque, et puis m'a fait chuter avec sa bandoulière qui est pendouillée, qui m'a pris le guidon, et je suis tombé sur le devant la voiture du directeur sportif à l'époque, c'était Jean-François Pécheux. Je suis vite remonté sur le vélo, j'ai rejoint Bougnot et Indurain à 1,5 km de l'arrivée, et malheureusement j'ai perdu. Mais bon, pour te dire, c'est vrai que c'est une consécration sur le Tour de France de pouvoir remporter l'Alpe d'Huez. Alors le Graal, est-ce que ça vaut un championnat du monde? C'est complètement différent.
Tout à l'heure, je t'ai posé la question et puis on a été interrompu.
Voilà, non, c'est complètement différent. Un titre de champion du monde, c'est l'aboutissement d'une carrière. Tout le monde veut être champion du monde.
Ouais. Et on se rappelle plus d'un titre de champion du monde qu'une victoire à l'Alpe d'Huez. Ensuite,
champion du monde, on est sur les tablettes. C'est comme l'Alpe d'Huez, mais bon, c'est un titre, c'est l'arc-en-ciel. Ouais. On a gagné pour la France.
Ouais. Cyril, ton avis là-dessus?
En sont deux sensations, deux émotions différentes. Sont deux courses différentes, et comment le public peut le percevoir, c'est assez difficile. Mais l'Alpe d'Huez a ceci de particulier, c'est que lorsque vous gagnez à l'Alpe d'Huez, ça veut dire que vous avez déjà fait autre chose avant. On ne gagne pas à l'Alpe d'Huez on n'est pas déjà dans le classement, si on n'a pas déjà un beau palmarès. Donc c'est une consécration, c'est la fin d'un Tour de France. Enfin, cette année, c'est le cas. Donc, arriver et gagner à l'Alpe d'Huez, il y a aussi autre chose autour dans les jours qui précèdent. On gagne pas l'Alpe d'Huez tout à fait par hasard.
Cyril, je me posais la question dans la journée. Je me disais, est-ce pas mieux pour Pinot d'avoir gagné à l'Alpe d'Huez que ce qu'il a fait l'année dernière? Franchement, je me pose des questions, parce que gagner à l'Alpe d'Huez comme il a gagné en plus, après avoir eu une série de galères et traversé un tour de galères et de malchance, et puis l'an dernier faire
quand même sur le podium,
sur le podium, oui, sur le podium quand même.
C'est pas rien, quoi.
Oui, enfin, on a, bon, je sais que le temps écrase tout, mais rappelez-vous l'enthousiasme nous avions tous l'an dernier, l'ensemble des médias, mais le public aussi. Une place sur le podium du Tour de France, c'est quand même quelque chose
qui est rare. Ils sont jeunes, en plus, on disait, voilà. Thibaut va remporter l'année prochaine, dans 2 ans.
On est un peu sur l'euphorie de la victoire d'aujourd'hui, de celle de Romain Bardet, de la chute de Thibaut aussi.
C'est plus vrai pour Bardet.
Il y a 2 jours. Je pense qu'une place de 3e dans le Tour de France, par rapport, si on nous demande de choisir, là je suis quand même très ennuyé entre faire 3e du Tour et gagner l'Alpe d'Huez. On s'appelle Riblon et qu'on gagne l'étape d'Alpe d'Huez, c'est extraordinaire, là c'est le Graal, parce qu'il sera jamais sur le podium. Mais quand on est sur le podium et qu'on gagne l'Alpe d'Huez, j'ai presque envie de dire, je vais encore m'en prendre plein la gueule, mais c'est normal, mais quand on a fait 3e d'un Tour de France, je veux dire, c'est une victoire légitime, c'est une victoire normale.
Oui, mais
parce qu'elle rentre dans ton statut de coureur.
Alors ce qui est le plus vrai, ce que je viens de dire, le plus vrai, c'est pour Bardet, par contre. Parce que sixième du Tour l'an dernier, là, cette année, il gagne une étape, et une belle étape. Donc, je sais pas. Moi, pour Bardet, ça serait plus vrai.
C'est mieux de gagner une étape que de faire 6e.
Voilà, exactement. Oui.
Vous avez vu comme les deux noms reviennent toujours ensemble. Dès qu'on parle de Pinot, on parle de Bardet derrière.
Ça y est, c'est parti pour.
Ils ont perdu le monde à cause de ça, d'ailleurs.
Avant de parler de Romain Bardet, qui aujourd'hui c'est Pinot qui rit et Bardet qui pleure, on va quand même écouter la joie de Thibaut Pinot tout à l'heure après cette magnifique victoire ici à l'Alpe d'Huez. Thibaut Pinot.
C'est la plus belle, je pense que tous les coureurs, si on leur dit quelle victoire ils veulent gagner, je pense qu'ils cochent tous Alpe d'Huez, donc voilà, j'ai gagné ici, c'est ce qui pouvait m'arriver de mieux, et puis pour moi et puis pour l'équipe, ouais. Mon bilan, voilà, le classement général, c'était pas top, mais voilà, après j'ai montré que j'avais du tempérament, qu'on n'a jamais rien lâché avec l'équipe, on était toujours à l'avant les 2 dernières semaines, donc voilà, mon bilan, pour moi il est très bon, parce que gagner Alpe d'Huez, ce sera pas tous les ans, quoi.
Bilan bilan très bon. Cette victoire efface-t-elle son Tour de France qui a été décevant quand même? On a déjà abordé un petit peu le sujet. Lucho, quand tu gagnes à l'Alpe d'Huez, la dernière étape ou l'avant-dernière étape, la seule vraie étape, parce que demain c'est pas une vraie étape, hein, c'est une espèce de parade dans les rues de Paris. Ça efface tout le reste, toute la déception.
En partie, ça efface tout le reste. Mais c'est vrai, quand on parlait de Thibaut Pinot tout au départ, psychologiquement, il est trop fragile, il se remet pas d'avoir pris du temps dans le vent, dans les bordures, il va déposer les armes, il va peut-être pas finir le tour.
C'est vrai qu'on s'est posé la question,
et on se rend compte aujourd'hui que, on s'est quand même trompé sur le Capino, puisque il finit le tour, et il finit le tour de très très bonne manière, en remportant cette très très belle étape. Ouais. Donc ça veut dire que psychologiquement, il sait se remettre certaines désillusions qu'il a eues en début de tour.
Et c'est presque ça le plus important, Cyril, c'est qu'il a montré qu'il avait de l'orgueil du champion. Il y a deux ans, rappelle-toi, il était au plus mal.
À la rue complète.
À la rue, il avait mis la flèche. Là, il a progressé deux ans plus tard. Bon, il a connu une première partie de Tour de France vraiment très dure. Et il a continué, il s'est accroché, il a retrouvé les jambes. Et aujourd'hui, il gagne la plus belle. C'est quand même pas mal, ça.
Non, c'est très bien mais c'est ça qui est encourageant. Ça veut dire que il a raté son tour. Parce que on peut pas le nier. On peut pas nier que par rapport aux objectifs de départ, on n'est pas dans les bis. Il aurait très bien pu être dans les trois premiers du Tour de France et gagner l'Alpe d'Huez aussi.
Oui.
Ben oui.
Si on lui aurait laissé
un peu plus dur.
Peut-être un peu plus dur, mais bon, si on regarde les chronos, on n'a pas reçu d'ailleurs les chronos de la montée, parce qu'ils sont avec pratiquement 2 minutes en bas. Il y a Quintana qui lui reprend une 30, et ce qui est logique. Mais par exemple, par rapport à Froome, les autres ont repris que 30 secondes, alors qu'ils étaient partis quand même depuis un moment. Donc, on peut pas oublier la première partie, parce que cette première partie, elle a été malheureusement catastrophique, et c'est pas ce qu'ils avaient envie. Ce qui a ensuite amené à avoir toute une période un petit peu de doute, où on s'est posé, et où tout le monde s'est posé la question, est-ce qu'on n'est pas en train de revivre? Lui-même, d'ailleurs, le dit, parce que nous on dit des choses, c'est vrai, enfin, ou l'ensemble des médias, mais lui-même dit, je suis en train de vivre mon tour d'il y a 2 ans. Donc on n'invente rien. Faut pas non plus nous faire inventer toutes les choses. On n'a pas inventé les galères du début de saison.
Mais il a vécu le tour d'il y a 2 ans, sauf qu'il n'a pas eu la même réaction.
Ouais, et c'est là où je voulais en venir. Cette dernière semaine, ou ces 4 derniers jours, il a prouvé qu'il était capable d'être un grand champion. Il lui reste à lui maintenant, de transformer cet essai pour faire de lui peut-être un futur vainqueur du Tour, ou du moins un coureur jouant la gagne du Tour.
Alors, Jérémy Roy, coéquipier de Thibaut Pinot, connaît bien son leader, puisqu'ils font chambre commune. Il nous parle de son leader et de la façon dont il a géré ce Tour de France. Jérémy Roy.
Thibaut est super jeune, mais il l'a prouvé plusieurs reprises. Et bon, aujourd'hui, c'est bien qu'il ait pu concrétiser pour l'équipe. C'est un grand talent, c'est sûr, c'est un grand talent et un grand caractère aussi, parce que voilà, quand il fait deuxième, il n'est pas content.
Alors, c'était Alexandre Geniez et non pas Jérémy Roy qui répondait aux questions de Yann Pécheral tout à l'heure. Donc, un caractère de battant, un vrai champion, Thibaut Pinot. Tiens, Frédéric est avec nous au 32-16 pour évoquer Thibaut Pinot. Bonsoir, Frédéric.
Oui, bonsoir à vous.
Bonsoir, Frédéric.
Bonsoir.
Alors, vas-y, on t'écoute, Frédéric. Donc, qu'as-tu pensé de la victoire de Thibaut aujourd'hui?
Oui, mais c'est vraiment une très belle victoire française. Notamment une belle victoire aussi de l'équipe FDJ qui a énormément pesé sur cette victoire à l'Alpe d'Huez. Alexandre Geniez qui a vraiment fait un travail énorme quand il y avait Ryder Heijdahl. Je me rappelle à un moment donné qu'il demandait à Thibaut Pinot de rouler, mais Thibaut avait fait un signe à Ryder Heijdahl qui avait gagné le Giro. Non, je roulerai pas, devant moi et mon coéquipier, on sentait que la victoire elle serait française, même si quand Quintana a attaqué, c'est vrai que ça sentait un peu mauvais, mais bon, c'est quand même extraordinaire ce qu'a fait Thibaut Pinot après ce début de Tour de France qui a été très difficile, comme vous l'avez dit. Et puis aussi Romain Bardet, mais c'est sûr que il y a une belle génération, hein. Romain Bardet, Thibaut Pinot, Pierre Roland qui finit dans les 10, Warren Barguil aussi, C'est sûr que l'Alpe d'Huez, ça devient un peu le, un peu une victoire française. Après, comme vous avez dit, Christophe Ribon en 2013 et puis Pierre Rolland en 2011.
Ouais. La montagne des Français. Merci Frédéric pour être intervenu au 32-16 et pour crier cocorico après cette victoire. Cyril, tu voulais ajouter quelque chose?
Pour ajouter à ce que vient de dire Frédéric, en fait c'est l'équipage G2R qui fait perdre Jenny Hess, parce que quand ils ont 7 minutes d'avance, à ce moment-là l'ensemble de l'équipage G2R se met à rouler et vont revenir revenir à 3 ou 4 minutes, j'ai plus le chiffre. S'ils ne roulent pas.
Et pourquoi ils ont roulé?
L'échapper, mais pour aller chercher des points en haut de la croix de fer, pour essayer d'assurer.
C'est gonflé.
Si ça roule pas, s'il y a deux minutes de, t'as une trente de plus pour Géniez, eh bien, c'est Géniez qui gagne l'étape.
Oui, et pourquoi G2R n'a pas laissé faire l'échappée
ça je sais pas, faut leur demander.
Ben oui, mais il fallait qu'ils laissent prendre les points à ceux qui étaient échappés, et puis voilà. À la rigueur, c'était mieux pour lui, non? Comme on en avait parlé hier. Je pense que c'était plus judicieux. Et là, on avait l'impression qu'il voulait marquer des points.
Ben oui, il cherchait à prendre des points parce que derrière, il sentait qu'il avait peut-être pas les jambes pour aller faire la bagarre avec Froome et Quintana dans l'ascension de l'Alpe d'Huez.
Eh ben, au contraire, dans ces cas-là, tu laisses partir les deux, l'échappée.
Tu laisses partir les 7 ou 8, oui.
Eh oui. Et les mecs, ils prennent tous les points. Et au pire, même à la rigueur, ils peuvent aller jusqu'au bout. Bon, peut-être pas tous, mais ils prennent le maximum de points. Et là, je pense que ça aurait été plus judicieux.
Donc c'était ça, cette étape ne pouvait pas échapper à la FDJ.
Et voilà.
Eh ben, la FDJ, mieux. C'est joli. Joli.
Exactement. C'est bien que la FDJ score aussi parce que franchement,
c'était dans les prolongations qu'ils ont mis au fond. Hein.
Bah oui, mais c'est le plus important. C'est des victoires dont on se souvient le plus, évidemment.
Il reste demain.
On va se retrouver dans quelques instants. On va évoquer la bagarre pour le classement général puisque Chris Froome a course gagnée, Tour de France gagnée, deuxième victoire. Ce sera demain sur les Champs-Élysées.
Mais il a tremblé.
Oui, peut-être.
Ils vont pas l'attaquer demain.
Il y a une petite côte quand même, hein, la côte des gardes. Hein.
Il y a la montée des champs aussi, on sait jamais.
Et quelques points.
Le
plus.
Tour n'est peut-être pas encore joué. Hein. On va essayer
de
durer le suspense jusqu'au bout.
Ça serait une première.
Allez, à tout de suite. L'intégral Tour de France en direct de l'Alpe d'Huez et de retour dans un instant.
RMC Intégral Tour. RMC Intégral Tour. Christophe Sessieux.
Thibaut Pinot a donc remporté une étape de prestige aujourd'hui. Quelle étape arrivée ici à l'Alpe d'Huez. Il s'impose avec 18 secondes d'avance sur Quintana. Valverde 4e à 1.38. Froome 5e. 5e à 1.38 également. Et un petit peu plus loin. Un petit peu plus loin. Tous les autres. Pierre Rolland 6e à 1.41. Richie Porte 7e à 2 minutes 11. Et puis ensuite évidemment le reste des coureurs au classement général. Et c'est évidemment ça le plus important parce que ce soir on est à la veille de l'arrivée sur les Champs-Élysées. Chris Froome reste en jeu, mais il a tremblé le leader de ce Tour de France. Il a perdu 1 minute 20 aujourd'hui, mais il avait 2 minutes 38 d'avance ce matin. Donc du coup, avec les bonifs, même avec les bonifs, il va quand même conserver son maillot jaune avec 1 minute 12 d'avance sur Quintana. Le troisième sur le podium demain sera Alejandro Valverde à 5 minutes 25. Nibali terminera quatrième à 8 minutes 36. Contador cinquième à 9.48. Le premier français, c'est donc Romain Bardet, 9e à 16 minutes. Pierre Rolland, 10e à 17 minutes 30 et un petit peu plus loin Warren Barguil 14e à 31 minutes 15 et Thibaut Pinot 16e à 38 minutes 52. Voilà donc pour le classement de ceux dont on a beaucoup parlé depuis le début de ce Tour de France. Chris Froome qui va donc remporter demain, Cyril, le Tour de France, mais il a tremblé aujourd'hui. En tous les cas, il a perdu des plumes, il a perdu 1 minute 20. Alors tout à l'heure tu laissais entendre que c'était peut-être un calcul de sa part de manière à ne pas paraître trop supérieur au reste du peloton. On sait qu'il avait reçu beaucoup de critiques après sa démonstration de force dans la Pierre Saint-Martin. Pour toi, c'est quoi? Il a joué le jeu, il a essayé de cacher son jeu pour ne pas paraître trop fort, ou alors il a vraiment peiné aujourd'hui?
Ben, c'est la question que l'on peut se poser, que nous nous sommes posés d'ailleurs avec Frédéric Adam tout à l'heure. On a du mal à savoir lorsqu'on regarde le style de Froome, si il est bien, si il bluffe ou s'il est entre deux eaux. Alors, je pense qu'il n'était pas aérien, ça c'est évident.
RMC Intégral Tour, Martial Fernandez.
19h34, avant de retrouver toute notre équipe sur la ligne de l'Alpe d'Huez. Je rappelle, avec cette victoire de Thibaut Pinot, on était en train de parler de Chris Froome, beau vainqueur ou pas. C'est sa deuxième victoire, en tout cas, pour cette édition 2015, lui qui s'était imposé en 2013. On est avec Thierry Bourguignon, toujours lui qui est avec nous. Est-ce que tu penses, Thierry, que Froome a eu peur aujourd'hui?
Oui, je pense qu'il a eu peur. Il a eu un jour, et même hier, le premier jour, c'est hier, on l'a senti non aérien. C'est la première fois qu'on découvre Froome sous cet aspect, puisqu'on l'a toujours vu au-dessus des autres, et on se demandait comment les adversaires pouvaient le mettre en difficulté. Eh ben, il y en a un qui doit vraiment avoir les nerfs, tout ce que tu veux. C'est Quintana, parce que je pense que s'il l'avait attaqué un peu plus tôt hier, avec l'aide de Valverde, je pense qu'il aurait peut-être le maillot aujourd'hui, peut-être, avec des si, on fait beaucoup de choses, mais peut-être le maillot dessus. Par contre, il y a quelque chose qui me dérange un petit peu sur l'interrogation qu'a eu Cyril, à se demander si... Alors, quand Froome écrase le tour, on se pose des questions. Quand Froome montre des moments de faiblesse, on se pose des questions. Arrêtons d'interpréter, c'est pas du cinéma. Ou alors ils sont très forts, hein, mais la Sky est très fort, et je pense que
on
peut pas se poser des questions quand ça gagne, quand ça gagne pas. C'est trop de questions.
J'entends le petit bruit d'hélicoptère. On a retrouvé Christophe Cessieux et toute l'équipe sur l'Alpe d'Huez.
Vous savez, c'est un soir un peu particulier parce que
ils nous ont coupé la ligne.
Ils nous ont coupé le courant parce que évidemment tout le monde va rallier Paris et les techniciens qui s'occupent de toute l'organisation ici sont très pressés. Évidemment, on les comprend de rejoindre Paris parce qu'ils vont arriver dans la nuit. Il faut installer la ligne demain matin et tout ça. Évidemment, c'est un très très gros chantier ce soir avec la descente de l'Alpe d'Huez, une arrivée prévue à Paris aux alentours de 5h du matin pour nos techniciens. Donc on va les encourager. C'est pas la faute de nos techniciens, en plus c'est le courant qui a été coupé. Alors j'entendais Thierry il y a quelques instants évoquer ce qu'avait dit Cyril. Cyril n'avait pas fini sa démonstration, mais il t'a coupé d'entrée là, Thierry. Donc pour Thierry, il n'y a pas de question à se poser aujourd'hui sur Chris Froome.
Non, mais c'est ce que je disais. Si on commence à se poser des questions quand il fait des super performances, on se pose les mêmes questions quand il fait preuve de défaillance. On se pose des questions tout le temps. Donc, essayons de lever le pied et puis s'interroger un petit peu. Ok, mais là, depuis le début du tour, on fait que ça. Je trouve ça un peu dommage.
Il y a Bruno qui m'envoie un mail. Personnellement, je ne suis pas persuadé que Froome était si mal que ça. On voit bien qu'il contrôlait et que s'il voulait, il mettait une mine à tout le monde. Je suis pas d'accord avec lui.
Ça, non,
la mine, je pense pas. Aujourd'hui, il avait non, pas non, le tir.
Il n'était pas du tout aérien, comme dit Cyril.
Non, il était pas aérien. Donc après il va gérer, et il avait deux équipiers avec lui. Donc le problème c'était de gérer son écart par rapport à Quintana, mais qu'il soit véritablement en grande difficulté, je ne pense pas qu'il finisse un petit peu entamé. Bon, ça me paraît évident, mais ce que je disais aussi, c'est qu'avec lui, on ne sait jamais si c'est du lard ou du cochon. Quand il est bien, t'as l'impression qu'il va se faire larguer.
Mais ça fait partie peut-être aussi de la science du champion, de savoir cacher son jeu et de pas montrer à ses adversaires quand on est bien ou quand on est mal, non?
Oui, tout à fait. Mais on n'arrive pas à percevoir, parce que quand vous avez un coureur qui montre pas qu'il est bien ou qu'il est pas bien, sauf que quand il saute, ça tu le vois.
Et là, il a pas.
Et là, il a plus du tout la même chose. Là, même quand il est décroché, il garde exactement les mêmes mimiques, les mêmes rituels, les mêmes tics, le même coup de pédale. Et c'est là où on peut se poser. Je porte pas d'accusation. Je dis que moi personnellement, je suis pas capable de dire s'il s'est mis à 100%, qu'il était vraiment en difficulté, ou si tout simplement il s'est dit si j'essaye de suivre, je risque peut-être de péter. Et comme j'ai deux équipiers qui sont là, je reste avec eux et je le gère.
De toute façon, comme tu l'as dit, il avait assez de temps pour gérer un petit peu.
Il avait un gros matelas.
Quand alors, après, on sentait pas très bien hein, quand même.
On va écouter les réactions justement de Chris Froome et ensuite de son directeur sportif Nicolas Portal qui lui a tremblé aujourd'hui. On écoute d'abord le vainqueur de ce Tour de France. Ce sera demain, mais enfin, on peut déjà l'annoncer. Et Christopher Froome, on l'écoute.
Oui, bien sûr, il y a quelques moments que j'avais pensé que Nairo, il a attaqué très fort et je me sens fatigué. Les jambes sont mortes. C'est gagné, mais c'était très difficile pour arriver au final avec le maillot. Ouais.
Voilà, Christopher Froome qui dit qu'il a connu une journée difficile. Alors, Nicolas Portal, son directeur sportif, lui, a véritablement tremblé. C'est ce qu'il a confié tout à l'heure à Georges Quirino. On l'écoute.
J'ai commencé à trembler quand l'écart a augmenté d'un coup là, de 5 à 15, 20 secondes. Et puis après, j'ai vu que ça stabilisait. Donc, quand on a vu Quintana attaquer, l'idée c'était aussi, voilà, s'il sent qu'il ne peut pas y aller, c'était de gérer. Faut pas oublier qu'il était 2 minutes 38 devant en général. Donc, il faut toujours regarder l'image de plus haut en fait et se dire, OK, faut pas paniquer. Et puis, gérer au mieux possible ce temps qu'il a dans la poche. Puis, j'ai vraiment senti qu'il craquait pas et on parlait, donc j'ai vu que ça allait, donc bon, voilà, c'est important.
Voilà, Nicolas Portal qui
confirme.
Il confirme qu'il a pas craqué, il a pas complètement flanché, Luc, parce que quand on flanche, on perd plus que 1 minute 20 sur un Quintana.
Regardez Bardet ou Barguil, quand tu pètes. Hein.
Comme on dit, quand on regarde l'attaque de Quintana, ça servait à rien que Christopher Froome aille rejoindre Quintana pour éventuellement peut-être exploser après. Donc il valait mieux gérer comme il a géré avec ses deux équipiers derrière. Après, bon, ben ses deux équipiers ont sauté et puis lui, il a fini le travail. Mais le danger, c'est de ne pas suivre un grimpeur comme Quintana avec les à-coups et puis après de complètement exploser. C'est là où il y avait des risques peut-être pour Froome et son équipe. Donc là, il a vraiment bien géré le truc.
Il a bien géré le truc. Alors, Christopher Froome fait-il un beau vainqueur du Tour, messieurs? C'est l'un des écarts les plus faibles de ces dernières années. Il faut remonter à 2008, je crois, pour voir un écart plus faible. C'était entre Sastre et Schleck. 58 secondes. Depuis, les écarts étaient toujours plus importants. Il y a deux ans, lorsque Froome gagne devant Quintana, c'était plus de 4 minutes. Hein.
C'était Frank Schleck.
Oui, c'était pas...
Ouais. Le vainqueur du Tour est toujours beau.
Le vainqueur, d'accord.
Ben c'est le maillot qui est beau.
C'est pas le vainqueur, c'est le maillot.
Je sais pas. Bon.
C'est comme le. Oui,
Ben ça le rend beau.
Ouais.
Le maillot jaune rend beau.
Drapé de jaune, ils sont tous beaux.
Bon, oui, mais on se plaint toujours du vainqueur du Tour. Alors, soit c'est. Alors, Wiggins, c'est une tête de mule, c'est vrai qu'il a été difficile.
Non, mais après, ils ont le caractère qu'ils ont.
Voilà, exactement. Bon, Froome, voilà. Après, il se passe ce qui s'est passé pendant le tour, les suspicions à gogo et compagnie. Alors, est-ce que c'est un beau vainqueur ou pas? Moi, je dis que c'est un très beau vainqueur. Il mérite amplement de gagner le tour et il a attaqué au bon moment. Il a géré au bon moment avec son équipe Sky. Il n'y a rien à lui reprocher. Il a fait une course extraordinaire avec son équipe. Il avait les coureurs avec lui qui lui ont donné les moyens de pouvoir remporter ce Tour de France.
Oui, parce qu'aujourd'hui, ils l'ont sauvé aussi un petit peu, hein, quand même. Hein. Parce que sur la fin, ils ont quand même Richie Porte. C'est mis à bloc pour lui pour finir la montée de l'Alpe d'Huez. Donc ça l'aide forcément. Si c'était retrouvé tout seul, je sais pas si il aurait peut-être pas perdu le tour non plus, mais il aurait peut-être dégueulé un peu plus de temps. sur Quintana.
Florian est avec nous au 32-16, il voulait intervenir et parler de Chris Froome. Bonsoir Florian.
Bonsoir
Florian.
Alors écoutez, moi je voulais juste vous dire que j'étais vraiment d'accord avec ce que vous dites depuis avant là. En fait, moi, je pense que Froome a utilisé ses coéquipiers à fond et qu'il n'a pas suivi l'attaque de Quintana parce qu'il pensait se mettre dans le rouge très tôt dans la montée.
Mais oui,
Gérer la montée avec ses coéquipiers, puis à la fin, attaquer lui-même. Mais je pense qu'il a plus géré l'effort que suivre l'attaque de Quintana.
Ah ben oui, de toute façon, il a géré, on l'a dit tout à l'heure, il a très bien géré, il valait mieux pas pour lui qu'il saute dans la roue de Quintana, quitte après à exploser et perdre plus de temps et mettre en danger son maillot jaune. Donc il a bien géré l'affaire avec ses deux coéquipiers de la Sky.
Mais sur Tour de France, moi je trouve qu'il l'a forgé dès la première étape, enfin dès les premières étapes, avec les bordures et tout. Moi je pense que c'est là que le Tour de France, Quintana l'a perdu.
Oui, on rappelle que dans l'étape des bordures, la deuxième étape du Tour de France, Quintana a perdu 1 minute 28. C'est dans cette étape-là presque que le Tour s'est joué, Cyril. La deuxième étape du Tour.
Oui, le Tour se joue chaque jour, hein, mais c'est vrai que c'est là où Froome a commencé à creuser des écarts. Et puis, où il a un petit peu enfoncé le clou, c'est qu'on pensait qu'il... pouvait éventuellement être mis en difficulté sur les secteurs pavés. Et on s'est rendu compte que non seulement sur les secteurs pavés, il n'a pas été mis en difficulté, mais qu'il était à l'offensive permanente. Rappelez-vous, sur cette étape, c'est Nibali qui avait essayé de secouer le cocotier à plusieurs raisons, essayé de provoquer des cassures qu'il n'a pas pu faire parce qu'il y avait, rappelez-vous un petit peu, il y avait du vent de face, ce qui fait que vent de face, c'est très difficile de les provoquer, mais Chris Froome était toujours dans les trois ou quatre premiers. Contador d'ailleurs était beaucoup plus en difficulté que lui. Heureusement, il avait à côté de lui un expert en cyclisme d'adresse, avec comment il s'appelle, le maillot vert. Avec Peter Sagan. Et qui lui a servi de poisson pilote. Mais je trouve que ce jour-là, il m'a impressionné. Et c'est peut-être plus ce jour-là où d'autres pensaient lui prendre du temps, qu'il a peut-être commencé véritablement à forger sa victoire.
Mais finalement, le Tour de France cette année, Thierry ne s'est pas joué uniquement en montagne. Il s'est aussi joué dans les premières étapes qui ont fait beaucoup de dégâts, puisque je crois que il a gagné du temps quasiment dans toutes les étapes, Froome sur Quintana. Oui. Je le disais, 1:28 à Zélande, 11 secondes à Utrecht lors du contre-la-montre inaugural, 11 secondes encore à Huy, et il était à 3 minutes 09 au sortir des Pyrénées, puisque derrière il y a quand même eu 1 minute 04 à la Pierre Saint-Martin, mais tout ne s'est pas décidé dans la montagne.
Oui, puis il y a eu le contre-la-montre par équipe.
Oui, oula, il a rajouté quelques secondes de plus. Est-ce que c'est intéressant de faire se disputer le Tour et avoir des étapes aussi dures dans les premiers jours de oui, course qui décident finalement
le Tour général. C'est le Tour, tout le monde connaît le parcours au départ, on n'oblige personne à y venir, donc quand ils y viennent, ils acceptent le parcours tel qu'il est, et le parcours, eh bien, c'est un champ de bataille où il faut, au travers de ses propres qualités, des qualités et de la puissance de son équipe, eh bien, trouver les éléments pour prendre du temps à ses adversaires, et comme on le disait tout à l'heure, quand on est sur les Champs-Élysées avec le maillot jaune, on est toujours beau, mais lorsqu'on arrive sur les Champs-Élysées avec le maillot, c'est qu'on l'a mérité.
Très bien, donc Froome, vainqueur méritant de ce Tour de France.
Bien sûr.
Toi qui l'as défendu, méritant. Qui l'as défendu, mais bec et ongles.
Oui, mais je continue d'ailleurs, je l'ai retiré à l'Alpe d'Huez parce que j'avais la trouille dans l'Alpe d'Huez.
Ah,
mais hier soir, quand j'étais mangé dans un petit restaurant au centre,
tout le temps, toi, pas dans l'état,
j'ai bon, il y a quelques personnes qui m'ont reconnu et un monsieur de l'office du tourisme donc de Saint-Sorlin-d'Arve m'a donné un petit carton Saint-Sorlin-d'Arve, le cœur Froome. Eh ben je l'ai mis sur ma voiture jusqu'au pied de l'Alpe d'Huez toute la journée, mais ça s'est très bien passé. Voilà.
Mais tu l'as enlevé.
Je revendique que j'apprécie beaucoup.
Courageux, mais pas téméraire.
Non, mais je revendique parce que j'apprécie beaucoup Froome, j'apprécie beaucoup son équipe, ce qu'ils font, voilà. Et puis, c'est tout. Voilà. Mais moi, j'ai beaucoup d'admiration pour lui. C'est quelqu'un qui est très charismatique, qui dégage quelque chose. Mais oui, ben j'aime bien. Ben vous aimez pas. Ben voilà, chacun ses goûts.
On a jamais dit qu'on n'aimait pas.
Voilà. Bon,
charismatique, je suis pas complètement d'accord.
Moi,
c'est un beau champion. C'est un garçon sympathique.
Qu'est-ce qu'il
fait l'effort de parler français?
Il a du charisme.
Qu'est-ce qu'il a dans son pédalier qui regarde toujours par terre? Hein, on a l'impression qu'il a honte. Je sais pas, charisme, moi, c'est autre chose, le charisme. C'est un gars qui montre la dimension du coursier. Là, franchement, c'est pas du charisme, que tu l'aimes, ok.
Écoutez, si vous êtes pas d'accord avec moi, de toute façon, on n'a jamais été d'accord sur tout le tour, donc c'est pas l'avant-dernier jour que ça va changer.
Mais c'est bien, ça fait des débats.
Voilà. Vous êtes pas toujours d'accord.
Imagine, tous pareils. Oh, qu'est-ce qu'on pouvait s'embêter.
La pensée unique.
Et voilà. Mais non, ça, c'est dans les films.
Très bien. Messieurs, on va s'intéresser maintenant à Quintana.
En tout cas, une chose importante,
Quintana,
c'est que
charismatique.
Cyril est toujours resté dans le camion à mes côtés.
Pas tout le temps.
Mais bon, voilà.
Mais
de toute façon, on a chacun notre caractère, c'est normal.
Oui, mais Cyril,
on a des avis pour, des avis contre, voilà.
Il aurait pu te mettre une claque. Parce qu'à bénéfice de l'âge, il y avait du respect.
J'aurais mis un coup de boule par la suite.
Messieurs, on va s'intéresser à Quintana. Quintana qui va donc terminer deuxième, comme il l'avait fait il y a 2 ans. Mais l'écart était plus important il y a 2 ans, plus de 4 minutes, je vous le disais, alors que là, il est à 1 minute 12. Est-ce qu'il peut avoir des regrets sur ce Tour de France, Cyril? Ou est-ce qu'il a fait tout ce qu'il a pu pour remporter ce Tour de France?
Des regrets, oui. Obligatoirement, on a des regrets.
Et des remords.
on a des regrets obligatoirement, parce que quand on est à une 12, eh bien, on va revoir toutes les étapes et à quel moment et pourquoi on a perdu tant de temps là, pourquoi on a perdu tant de temps là et pourquoi j'en ai pas repris à tel moment. Oui, on ne peut pas se satisfaire d'une deuxième place. On peut dire bon bah finalement j'aurais peut-être signé pour ça au départ, et encore Quintana je ne pense pas, mais on ne peut pas se satisfaire d'une deuxième place et il faut analyser pourquoi on a été battu, alors que on se rend compte que sur la traversée des Alpes Quintana était quand même plus fort que Froome. Il a pris une minute dans la première étape des Pyrénées. Vous devez par obligation vous poser des questions, mais moi, les questions que je pose, elles sont sur un plan purement stratégique de course.
Oui, tout à l'heure, tu t'es énervé, hein. T'étais très énervé contre la stratégie de la Movistar, comme tu l'avais déjà été hier. Tous les jours, tu t'énerves. Je pense que tu veux le poste de directeur sportif de Movistar, hein.
Non, je parle pas espagnol. Mais c'est pas le débat. Et puis, je suis trop bien avec mon leader, Christophe Cessieux. Non mais il y a des règles en course. Il y a des règles de course.
Que tu rigoles, toi.
Quand on veut faire sauter un leader, on le fait pas en faisant attaquer ses équipiers. Il faut mettre un rythme suffisamment important. Il faut le faire au train, mais pas en attaquant. Quand vous attaquez, vous passez dans le rouge. Après, il va falloir que vous ralentissiez, que vous remétabolisez. Pendant ce temps-là, votre adversaire, lui, tranquillement, cloc, 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 il vient vous rebouffer. Vous faites comment alors ? Vous faites attaquer Valverde, et quand Valverde est à 150, à 100 mètres, vous sortez derrière, vous vous retrouvez tous les deux. Et là, vous êtes obligé d'ouvrir la bouche grand. Et l'autre, avec ses équipiers, toujours au même rythme, hop, il rentre. Donc c'est un coup d'épée dans l'eau.
Il n'est pas rentré tout le temps, puisqu'il n'a pas réussi à rentrer quand même sur le dernier coup.
Il n'a pas arrêté. Non, mais attendez. Alors, ça, c'est vraiment la question pour me contrer et surtout pour arrêter ma démonstration. Si vous voulez sortir et vous voulez faire sauter un équipier, il fallait que Valverde, il se sacrifie. Le problème, c'est qu'il était troisième, au général.
Mais ouais,
il fallait hier comme aujourd'hui, qu'à un moment, s'ils veulent gagner le tour, ou alors ils étaient persuadés qu'ils ne pouvaient pas le gagner, et à ce moment-là, ils font le show.
Comme ils l'ont fait hier, aujourd'hui.
Ou alors vous mettez Valverde, vous faites rouler les équipiers, vous mettez Valverde à la bord. Mais là, Valverde, il met max et il faut faire sauter et mettre tout le monde dans le rouge derrière. Et après, Quintana doit se mettre au train et faire péter. S'il fait pas péter, où veux-tu prendre du temps à un coureur qui va se mettre, allez, à 0,2 à l'heure moins vite que toi, qui va rester dans ces zones acceptables? Eh ben, tu prends quoi? Tu prends 20 secondes, 30 secondes, ou aujourd'hui, une 20 sur quelqu'un qui est un... on ne gagne pas le tour en faisant attaquer ses équipiers et en contrant et en attaquant 5 ou 6 fois.
Voilà, vous comprenez pourquoi ce monsieur a gagné 13 grands tours quand même. Vous avez compris là, messieurs Bourguignon et Leblanc? Vous avez compris la démonstration?
De toute façon, Cyril,
on a compris, on était avec lui.
Et t'en as pas gagné des grands tours.
Il m'a fait perdre un tour.
Ça y est, ça revient, comme tous les jours. Les reproches,
vous comprenez pourquoi il m'aime pas?
Mais non, c'est pas vrai.
Il y a de la rancœur, hein.
Voilà, pas du tout. C'est pour ça que je suis à ses côtés. Sinon, ça fait longtemps que j'aurais foutu le camp du camion à RMC.
Heureusement que je t'ai fait gagner d'autres courses.
Ah oui, heureusement.
Mais Cyril,
c'est vrai que j'ai gagné mes plus belles courses avec Cyril, en partie, oui. Oui.
Allez, messieurs.
Dès le départ, on a senti qu'il y a un Valverde qui a pas forcément l'envie de perdre leur place. Donc surtout Valverde qui voulait garder entièrement sa troisième place et qui était mérité peut-être, mais c'était pas un Gregario, c'était un leader, un second leader.
Et c'est le problème d'avoir deux leaders dans la même équipe, ça peut servir en montagne, mais de temps en temps on se marche un peu sur les pieds.
Non, Christophe, je pense que c'est la direction de l'équipe qui a pas su manager comme il faut. Parce que c'était la force de l'équipe d'avoir deux super leaders comme ça. Mais il fallait en sacrifier un. Et à un moment donné, il fallait sacrifier Valverde. C'est tout. Dans les Alpes,
en tout cas, Quintana a été équipier modèle de son pseudo-leader ou pas. Il n'a jamais voulu le faire péter. Et à chaque fois que Valverde était en difficulté, il regardait un peu dans les yeux, sauf à la fin là aujourd'hui où il a décidé quand même d'aller tenter sa chance,
parce que Nibali crève au pied, hein.
Ouais. Oui, parce qu'il est assuré de la troisième place.
Il s'est retrouvé à une minute derrière, donc la troisième place était assurée.
Messieurs, c'est l'heure des paris.
Les paris RMC Tour de France
avec Benji. Salut Benji.
Salut messieurs.
Bon,
salut
Benji. Est-ce que le tour est joué ce soir pour les paris aussi?
Alors il est joué pour deux maillots, il est joué pour le maillot vert qui revient définitivement à Thierry Bourguignon qui ne peut pas être rattrapé.
Et surprise, j'ai réalisé un petit hold-up hier.
Je vais tenter Thibaut Pinot avec une cote de 20.
Pinot ah ouais. pour Benji, très bien.
Et du coup, prends définitivement le maillot à pois. Ah bon, c'est la seule fois que je le porte dehors.
Je croyais que t'allais me piquer le maillot jaune.
Non, mais avec Bourgui, on a établi une règle avec Bourgui. Lucho, tu vas devoir donner ton prono en premier, sinon c'est pas juste. Tu peux coller à notre prono. Donc, comme tout est encore jouable, c'est toi qui vas parler en premier.
C'est moi qui parle en premier.
C'est Benji qui fait les lois et tu les appliques.
Sinon, il n'y a pas de suspense et nous, on n'est pas.
Mais s'il a pas les noms, il va pas savoir. Alors il n'a pas d'idée là. Il est complètement sec là.
Oh, non. Ouais. Vas-y, donne les tendances.
Non, donne les noms. C'est facile. J'ai
ma propre idée, mais je veux savoir.
Le grand favori, c'est Greipel. Pour info, à 2,50.
Ouais.
Fallait pas lui donner.
Et après.
Après Cavendish.
Ouais. Voilà, tu les connais tous, ces sprinteurs.
Bon, bah, écoute, je vais garder ma première idée, je vais dire Cavendish.
Marc Cavendish, pour Thibaut Pinot.
Pour Roger.
Pour Luc Leblanc. Cyril Guimard, vous qui êtes lanterne rouge, dansez-moi la lanterne rouge des Paris cette année.
Alors, on note que t'as pas donné un vainqueur d'étape sur ce tour.
C'est une catastrophe.
Ah, mais il peut pas bosser et puis réfléchir.
Ah oui, c'est difficile de bosser.
Moi, aujourd'hui, j'ai vite compris au départ de l'étape. Ils ont commencé les AG2R. Là, ils ont commencé par faire rouler mon favori. Donc c'est Jean-Christophe Perrault qui s'est mis à la barre dès le pied de la croix de fer.
J'ai dit fallait oser quand même Jean-Christophe Perrault.
Et
Thierry,
oui.
Cyril est en train de faire son pronostic, donc tu peux faire la sieste.
Ouais. Mais attends, il y a combien? Il y a 160 concurrents. Il va les passer un par un pour dire le dernier.
Moi, je reste avec l'équipe qui est dans l'euphorie aujourd'hui.
Arnaud démarre.
Ah.
Ok, c'est enregistré. Arnaud démarre pour Cyril. Thierry.
Sébastien Chavanel est toujours là.
Greipel.
Il va le poser là-dedans.
Attends, il y a Thierry qui veut faire ses pronostics. Cyril.
Tu veux parler, Thierry?
Non.
Mais si tu peux le laisser parler,
continue.
C'est pas mal.
On nous a dit qu'il y avait 17 minutes.
Non, mais c'est nul.
On a encore
4 minutes.
Non, il reste 40
secondes. On a un convoi à prendre.
Thierry. Greipel, je joue quelque chose de sûr.
Vous avez raison, Greipel.
Cavendish ne va pas lui remonter.
T'es sympa, Bourgui. Tu bois la coupe de champagne avec Lucho. Tu ne l'attaques pas. Moi, je vais l'attaquer. Je vais tenter Michael Matthews avec une cote de 40. Comme ça, au moins, je peux toujours essayer de prendre le maillot à Lucho.
Alors, qui je peux faire perdre, moi, demain, puisque j'en ai pas donné un à chaque fois que j'en ai
donné. Il faut que tu fasses une grosse cote.
Non, mais je vais te faire perdre toi. Scott. Il a donné quoi, Lucho? Comme moi,
il a donné Cavendish.
Je vais donner Cavendish, comme ça, je suis sûr qu'il va pas gagner.
Il y en a qu'un qui peut prendre.
C'est
la
tactique, ça, mais
pourquoi?
J'ai écouté la tactique. Mais
ça fait rien, on gagne en même temps, ça fera ma cinquième victoire quand même.
Tu sais pourquoi, Lucho? Parce que t'as le maillot jaune, comme Froome, et puis il aime pas Froome. Il a bien senti qu'il ne l'aimait pas. Contrairement à toi qui l'adore.
Ah oui. Il est amoureux.
Et Virginie alors?
Et Virginie, elle n'est pas là, c'est Martial.
Ah, c'est Martial.
Et Martial, je ne sais pas s'il a donné un vainqueur pour demain.
Non, pas encore.
Bon, il va le donner.
Salut Martial.
Salut messieurs, bonsoir.
Là, on l'a pris au départ.
Ah oui, moi je vais regarder les cotes aussi. Moi je vais jouer Degenkolb demain.
John Degenkolb, voilà une bonne.
Ouais, combien il était pas chez
la Sky,
lui, avant? Quand il marchait, il était bien à Sky.
Allez,
bon, Thierry, bonne soirée.
Merci, messieurs, c'est fini pour les paris.
PMU.fr, paris sportifs, paris hippiques, poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
Martial, je vais te laisser en compagnie de Thierry Bourguignon et puis Luc va essayer de.
On essaie de l'avoir dans la descente.
On
va voir ça.
On va voir.
T'as pas le droit de conduire.
Je me suis équipé. Non, mais j'ai le casque.
Jamais été un bon descendeur.
Il n'y a pas de souci.
Il y aura le temps de parler peut-être. Merci Cyril, merci Christophe, Thierry et Lucho toujours avec moi. Le 32-16, le hashtag RMC Live pour poser toutes vos questions entre 20h et 20h30. Puis à partir de 20h30, on ouvre la page football. On reviendra sur la poule de l'équipe de France pour les qualifications de la Coupe du Monde 2018. Pays-Bas, Suède, Bulgarie, Bélarus et Luxembourg. Pas si simple.
RMC Intégral Tour.